La liturgie sera très très importante en Orient particulièrement, mais on y reviendra. Donc, vie et mort des chrétiens de l'Orient, c'est vraiment pour l'instant l'Orient est en train de se vider davantage de ses chrétiens. Donc on est vraiment entre la vie et la mort, et je dirais même survie et mort au Proche-Orient. Toutes les églises orientales sont comprises dedans. Mais moi j'en parlerai davantage de l'église chaldéenne. Bernard il a fait un exposé la semaine dernière sur les autres églises. Moi j'en parlerai de l'église chaldéenne particulièrement. Et les martyrs, parce qu'elle a donné toujours et elle continue à donner toujours des martyrs. Juste vous donner une définition selon le code des canons des églises orientales. Donc, comme vous savez, les églises orientales catholiques, ils ont leur propre code canonique. Il y a le code canonique des églises latines, donc de l'église latine occidentale. Mais nous aussi, nous avons le nôtre, ce qui est propre à nous. Et dedans, ils donnent une définition beaucoup plus que rituelle, une définition assez large, je trouve. Parce que dans le rite, il met beaucoup de choses. Il dit, le groupe des fidèles chrétiens unis par la hiérarchie selon le droit, que l'autorité suprême de l'Église reconnaît, le pape expressément nous reconnaît, ou tacitement, dénommé dans le présent code de droit propre, sous iuris, de droit propre. Donc nous sommes une Église de droit propre. Nous sommes autogérés par nous-mêmes en reconnaissant Rome, en reconnaissant le pape. La définition qu'il donne est vraiment assez intéressante. Le rite est le patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire qui se distingue par la culture, les circonstances historiques des peuples et qui s'exprime par la manière propre à chaque église de droit propre de vivre la foi. Donc, une église orientale, c'est une église où a la totalité de tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir vivre. Donc, on aurait pu ne pas être attaché à Rome, comme l'église syriaque orthodoxe, comme l'église arménienne apostolique. On aurait pu ne pas et avoir notre chef, notre patriarche, parce que nous, on a un autre patriarche, qu'on aurait pu l'appeler sa sainteté au même niveau que du pape. Mais les patriarches qui sont catholiques, on les appelle non pas sa sainteté, on les appelle sa béatitude, puisque sa sainteté, ce n'est pas. Et donc, dans l'Église, nous avons l'aspect liturgique, théologique, spirituel, disciplinaire. La totalité de ce qui forme une Église, mais propre à chaque peuple, distingue, et c'est notre manière de vivre notre foi. Nous sommes catholiques, parfois on me demande, êtes-vous catholique ? À l'Église, certains me demandent si je suis musulman d'ailleurs, quand on ne connaît pas bien, donc... Est-ce que vous êtes musulman catholique? C'est la non-connaissance, vraiment la méconnaissance des églises orientales amène parfois des aberrations. Est-ce que je peux communier chez vous? Je suis catholique, alors vous pouvez. Hein. C'est la même foi. La foi ne change pas, la pratique de la foi change. Notre manière de vivre notre foi est différente. Mais la foi n'est pas différente. D'ailleurs, au niveau de la tradition, nous avons la tradition, les rites dont il s'agit dans le code sont, sauf constatations différentes, ceux qui sont issus des traditions alexandrines, antiochiennes, arméniennes, chaldéennes et constantinopolitaines, qui est plutôt le byzantin. Et nous avons, je cherchais depuis longtemps le tableau, et finalement j'ai trouvé le tableau. En fait, il y a 23 églises orientales, catholiques, du rite oriental. Il y en a qui sont du rite. Ça va trop vite, c'est le changement ici. Oui. Voilà. Vous voyez ici, il y a pas mal de rites byzantins, mais nous avons ici les maronites, les coptes, les arméniens, les syriaques, les catholiques, belkites, les chaldéens, les ukrainiens, les syro-malabar, les syro-malamkar, etc. Donc nous avons énormément d'églises orientales, il y en a 23 en tout cas qui sont catholiques, orientales, du rite soit byzantin, du rite soit maronite, melkite, qui sont plutôt byzantins les melkites, mais de la tradition antiochienne, chaldéen.
Un souci avec.
Ou alexandrin, les coptes par exemple, ou les voilà, on y arrivera. C'est, vous voyez, l'église du Christ, elle n'a pas été dès le départ une seule église. Elle a été une multitude d'églises parce que les apôtres ont annoncé la parole de Dieu et la parole de Dieu s'est incarnée dans différents lieux à la manière des lieux. On n'a pas fait comme on avait fait malheureusement au 15e, 16e siècle quand les missionnaires occidentaux sont arrivés, ils ont voulu, surtout en Inde, faire tabula rasa. Ce que vous faites, c'est pas bon, on va refaire les choses. Ce sera en latin et ce sera comme ça et ce sera comme ça et pas autrement. Mais les églises orientales, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, elles, ils ont été annoncer la parole de Dieu en prenant la culture du lieu et en le transformant de l'intérieur pour apporter ce qu'on appelle vraiment l'incarnation de la foi dans les différentes cultures. Maintenant, je reviens sur l'église chaldéenne elle-même. En fait, l'église chaldéenne, on ne l'a pas appelée l'église chaldéenne tout de suite. C'est l'église d'Orient. Aujourd'hui, quand on vous pose la question, l'église d'Orient, vous pensez à quoi? Vous pensez à l'église de Byzance, ou à l'église de Constantinople ou de Moscou. Ça, c'est l'église d'Orient. Mais à cette époque-là, l'église d'Orient, c'est nous. L'église de Rome, c'est vous. Mais c'est l'extrême Occident, en fait, vous. Parce que l'Occident, pour nous, c'était Constantinople. Parce que nous, nous sommes en Perse. Et Perse, vous voyez, on est en Mésopotamie, en l'Irak actuel surtout, sud-est de la Turquie, un peu la Syrie, un peu l'Iran, toute cette région-là, c'était la Mésopotamie. Et donc, notre église est née en Mésopotamie, s'est développée en Mésopotamie, donc nous, on était en Orient. Et pour nous, l'Extrême-Orient sera Chine, Mongolie, et l'Occident, c'est Constantinople, et l'Extrême-Occident, c'est Rome. Les choses ont bougé, les choses ont changé. L'évangélisation de notre Église remonte à saint Thomas apôtre, que lui, il aurait évangélisé la Mésopotamie sur son chemin vers l'Inde. Parce qu'il est mort en Inde, on a les chrétiens de saint Thomas en Inde. Et les deux apôtres de saint Thomas, qui sont Abdaï et Marie, d'ailleurs l'Église chaldéenne ici à Bruxelles, ça s'appelle Mar Abdaï et Mar Marie. C'est Mar veut dire saint, Saint Abdaï, Tabdaï, un des 72 ou 70 disciples du Christ, et Marie qui était disciple de Abdaï. Ils ont évangélisé le sud-est de la Turquie et tout l'Irak. Et petit à petit, on a continué, mais nous sommes dans l'Empire perse. Et il y a l'Empire byzantin. Donc il y a deux empires qui se battent entre eux. Malheureusement, l'Empire perse est passé au niveau de la religion d'État à Zoroastrisme. Mais Constantin, en 313, est passé au christianisme. Donc ça veut dire que maintenant, les guerres sont davantage. Et les chrétiens de Perse étaient persécutés parce qu'on les considérait comme l'ennemi qui est chrétien. C'est exactement la même chose qu'on a eu maintenant en Irak, quand il y a eu la guerre de Golfe et tout ce qui se passait autour, on disait, vous êtes chrétien, Bush est chrétien, alors vous êtes comme lui. Vous voyez, donc exactement la même chose à l'époque, quand on avait l'Empire perse contre Byzantins chrétiens, donc les chrétiens dedans étaient persécutés. L'église chaldéenne, l'église d'Orient plutôt, je devrais dire, l'église d'Orient, en 410, dont le synode a décidé de se séparer suite au premier concile 325 de Nice, où tous les évêques étaient une église unie, vous voyez, on a décidé de se séparer de cette église pour dire que nous, on est indépendants. On n'est pas liés à l'Empire byzantin, aux chrétiens byzantins. On est indépendants. Mais comment faire? Politiquement, c'est difficile. Religieusement, il faut attendre 431, quand l'affaire de Nestorius, concile d'Éphèse, où il a dit Théotokos, c'est pas bon de dire Théotokos, parce que Marie n'est pas mère de Dieu, mais elle est plutôt mère de Jésus, mère du Messie, mais pas de Dieu. Nous, on a trouvé, en fait, Nestorius, il n'est pas de chez nous. Il n'a jamais été en Orient. Il a été au Constantinople, mais il n'a jamais été en Orient, donc on ne le connaît même pas. Il n'est pas de notre Église. Mais on a utilisé, il a été condamné, on a utilisé cette théologie de Nestorius en disant, ben, nous on est comme lui, pour qu'on nous laisse un peu en paix. Et on s'est séparé totalement à ce moment-là de l'Église, et on s'est tourné cette fois-ci vers l'Orient et l'Extrême-Orient. Et l'évangélisation va faire beaucoup d'œuvres dans plutôt l'Extrême-Orient. Et on ira jusqu'en Chine, en Mongolie. En fait, notre séparation va nous permettre d'avoir une possibilité d'évangéliser totalement cette partie du monde. Mais je vous montrerai tout à l'heure les images. Donc 410, le synode. Shapur Ier et Shapur II, ce sont les deux rois perses. Il y a eu une massacre pendant 40 ans sans arrêter. Des centaines de milliers de chrétiens ont été persécutés. Des centaines. Des évêques, des prêtres ont été tués. Ont été par les Perses. Et l'image que nous avons... Pourquoi ça part toujours ? Je ne sais pas pourquoi. On a donné énormément de martyrs dans l'Église sur les 40 ans sans interruption de massacres. Si pour le moment, pas de problème.
On va vérifier là.
Donc, nous, on s'est tourné plutôt vers l'Extrême-Orient. De 411 jusqu'au moment de la conquête avec l'islam. L'islam, comme vous savez, c'est au 7e siècle, hein, 622, Mohammed qui commence ses affaires, et puis jusqu'à 632, quand il mourra. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, ils ont conquis énormément. Et puisqu'on est en Orient, donc tous les territoires où on était ont été conquis par l'islam. Et on nous appelait les gens du livre, un mot qu'on ne devrait pas accepter, parce que nous ne sommes pas les gens du livre, nous. Ahl al-Kitab. Les gens du livre, nous on n'est pas les gens du livre, nous sommes les gens d'une personne, le Christ. C'est pas un livre. Le Christ n'est pas un livre, c'est une personne. Et on nous a attribué une statue qu'on appelle statue de Dihimi, c'est-à-dire de seconde zone. Vous êtes chrétien, vous pouvez rester chrétien ou juif. D'ailleurs, tout le reste était massacré. Donc, vous pouvez rester chrétien ou juif, parce qu'on vous considère, les musulmans nous considèrent comme des gens du livre, mais il faut payer une taxe spéciale pour être protégé dans l'empire musulman. On a accepté, on a vécu, parce qu'on a vécu avec l'islam pendant presque 1500 ans sans problème. Nos chrétiens, qui étaient assez forts dans les sciences et la médecine, surtout dans les cours des sultans, on avait des médecins chrétiens. Mais depuis 431, on nous a appelé, non pas l'église d'Orient, on nous a appelé l'église nestorienne. Donc vous êtes des nestoriens. Mais heureusement qu'on a un père de Halleux et à son âme de le 29, il a prouvé que même Nestorius n'était pas nestorien. Alors nous, on n'était pas du tout nestoriens. Mais ça nous a arrangé, ça nous a rangé dans le sens que c'était plus politique que religieux, plus un problème de séparation politique qu'une recherche dans la foi, une distinction, une différence dans la foi. Ça nous a permis quand même de nous de faire notre évangélisation en dehors de l'Empire byzantin, dans l'Empire perse et jusqu'en Mongolie. Surtout, nous avons un patriarche, Mayab Alahan III, de 12e, 13e siècle. À son époque, on avait, c'est un Mongol, c'est un patriarche mongol. On avait 30 sièges métropolitains, plus de 200 diocèses, et on avait plus ou moins entre 60 et 80 millions de fidèles. Donc, voilà une carte. On a vraiment un souci avec. Voilà une carte qui indique toute cette région-là était évangélisée par l'Église d'Orient. Donc on avait été non seulement en Inde, mais on a été encore plus loin, en Chine. Et Yab Alaha, il est de Pékin, il est né à Pékin. Vous imaginez? Aujourd'hui, quand on a un pape argentin ou si on a un pape africain, on dit waouh. Mais nous, on avait déjà un patriarche mongol. Et là, on est au 13e siècle. Hein. L'Église était fort répandue et ça tenait bien. Malheureusement, ceci, c'est un site, il est en Chine, à Xinyangfu. C'est un site où on avait un monastère. Et dans ce monastère, du 8e siècle, 725-780, on avait le stèle ici, qu'on appelle Xinyangfu. C'est vraiment embêtant. Xinyangfu, où on avait écrit dessus en chinois et en syriaque. L'écriture, la foi, la profession de foi est écrite en chinois et en syriaque, où on expliquait, parce qu'en fait les Chinois étaient fort portés sur la lumière. Et les chrétiens, ils ont dit, ok, la lumière, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, cette lumière, c'est le Christ. Vous voyez, on n'a pas été de dire, ça ne va pas votre lumière. On prend votre culture, et l'âme de votre culture, on amène notre foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la croix, c'est une croix de l'Église d'Orient. Même, j'en parlerai, il y a un schisme dans l'Église d'Orient. Les deux églises utilisent toujours la même croix. C'est la croix de l'Église d'Orient. D'ailleurs, symboliquement, chez nous aussi, à Marada et Marmal, si vous venez à l'Église, vous verrez. C'est les 12 disciples, les 4 évangélistes, le Christ au milieu. En 1553, on a eu un schisme dans l'Église et une partie de l'Église d'Orient, qu'on appelait donc l'Église nestorienne, déjà en 1440, il y a eu des tentatives qui n'ont pas marché à Chypre. Et puis en 1553, il y a eu Yohannan Sulata, qui était un moine à Al-Osh, à Rabban Gulmus. Heureusement que Daesh n'a pas réussi à arriver jusqu'à Al-Osh, parce que c'est vraiment un lieu de spiritualité très, très haute dans l'Église d'Orient. Et aujourd'hui, c'est dans l'Église chaldéenne. Yohannan Sulaka est devenu le premier patriarche de l'Église chaldéenne catholique qui a professé la foi en avril en 1553 à Rome et il est devenu catholique et une partie de l'Église est devenue catholique. Mais on n'était pas devenu, là aussi, il faut être honnête, intellectuellement parlant en tout cas, on n'a pas été catholique parce qu'on aimait bien la foi catholique. On a été catholique parce que dans l'Église d'Orient, où la succession du patriarche était devenue un peu, non pas de père au fils, mais de oncle au neveu. Et on a eu un patriarche qui avait 12 ans sur le trône du patriarcat. Donc, une partie de l'Église, des évêques, ils ont dit, on ne peut tolérer ça, on ne peut accepter ça. Donc il y a 4-5 évêques qui sont mis ensemble, ils sont révoltés. Et ils ont cherché un moine dans son monastère pour qu'il soit patriarche de l'Église chaldéenne. Il a été donc le premier patriarche, il est resté en Turquie et malheureusement il a été martyrisé aussi, lui. On peut appeler le premier martyr de l'union avec l'Église de Rome. Donc une partie de notre Église est devenue l'Église chaldéenne catholique depuis 1553. L'autre partie qui n'est pas rattachée à l'Église de Rome, on a appelé toujours l'Église nestorienne, qu'aujourd'hui on l'appellera plutôt, parce qu'il y a eu des accords avec Rome, on l'appelle l'Église assyrienne apostolique d'Orient, ou l'Église d'Orient des Assyriens. En 1994, il y a eu un accord avec Mardenha, qui est décédé, l'ancien patriarche de l'Église assyrienne, et Saint Jean-Paul II, un accord de christologique, un accord très important, qui a mis fin à tout le débat qu'il y avait à Éphèse en 431. Et depuis ce jour-là, en fait, les Assyriens peuvent communier chez nous et nous aussi on peut communier chez eux. Donc il y a eu cet accord nous a rapprochés davantage, même si eux ils n'ont pas voulu reconnaître la primauté du pape ou devenir catholique. Maruhanna Sulata, il est nommé souvent comme le patriarche de la Syrie. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église chaldéenne et dans l'Église assyrienne, il y a tout un débat sur le nom. On est assyrien, on est chaldéen, on est quoi, ethniquement parlant. C'est un débat, ça continue. Mais moi, je dis personnellement, ethniquement, nous sommes un seul peuple. Les Assyriens, les Chaldéens et les Syriaques font partie d'un seul peuple, ethniquement parlant. Mais au niveau des divisions des Églises, nous avons chacun notre propre Église. Mais initialement, la langue est la même. La langue syriaque est la même, classique, est la même dans l'Église syriaque orthodoxe, catholique, dans l'Église assyrienne et dans l'Église chaldéenne. La langue est la même. C'est la langue, on parlera tout à l'heure, de Saint-Éphrem. Saint-Éphrem, il est de Chine. Mais j'en parlerai dans les mystiques. Donc, on a utiliser les termes chaldéens, on a utilisé les termes assyriens. Rome a préféré utiliser, pour nous distinguer justement des nestoriens, a utilisé le terme l'Église chaldéenne. Donc, on est l'Église chaldéenne catholique aujourd'hui, et c'est comme ça. Mais dans l'histoire, on a vu que certains, en tout cas, ont utilisé d'autres termes, comme assyro-chaldéens. Déjà en 1870, on a utilisé pour un patriarche de chez nous assyro-chaldéen, qui était devenu assyro-chaldéen, l'archevêque de Amadien. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que notre foi en Jésus-Christ, ça c'est le plus important. Dans notre tradition, dans notre rite, dans notre spiritualité, dans notre, ce que j'avais dit au début dans la définition d'une église sous Iuris. Mais les choses ne se passent pas toujours bien. Parce que Timurlan et les persécutions de 14e et 15e siècle ont malheureusement amené l'Église d'Orient, qui était répandue jusqu'à en Extrême-Orient, à se réduire, et finalement à devenir ce qu'elle a aujourd'hui avec les persécutions. Donc, si lui, le père de Timurlan, s'étaient convertis, s'ils s'étaient convertis au christianisme, aujourd'hui, le monde serait chrétien, je crois. Mais puisqu'il s'est converti, et c'était un guerrier, mais très porté sur le Coran, et très porté sur la conquête, et c'est comme ça qu'ils ont complètement rasé toutes nos églises de là-bas. Et c'est pour ça que quand les jésuites sont arrivés au 15e, 16e siècle, ils disaient, mais on vous apporte la foi, mais nous on avait déjà fait. On avait déjà apporté. En fait, les gens avaient déjà un soubassement de la foi chrétienne là-bas. Il fallait peut-être un peu plus creuser. Et il y a eu quand même des choses qui n'ont pas été très, très, très bonnes à ce niveau-là. Ensuite, les missionnaires sont arrivés chez nous en disant que vous êtes catholique, ok, mais il y a des choses qui ne sont pas claires chez vous. Par exemple, l'anaphore, la pierre eucharistique de Abdaï, Mar Abdaï, Mar Mari, ne comportait pas les paroles de la consécration. Bon, ça ne va pas, ça, pour un latin. Parce que ce qui fait la transsubstantiation, ce qui change le pain en corps et le vin en sang du Christ, ben c'est les paroles de la consécration. Et vous ne les avez pas. Donc vos liturgies, il faut les remanier. Et on a introduit dans la prière eucharistique la plus ancienne au monde, encore utilisée, on a introduit les paroles de la consécration. Parce que dans l'Église d'Orient, c'était surtout les puplaises qui transforment. Donc, né t'es mort, que vient ton Esprit Seigneur, ça c'était pour nous qui faisait tout le travail. Mais avec la latinisation de notre liturgie sur certaines choses, maintenant on a eu... Mais on est content que quand même les missionnaires arrivent chez nous, parce qu'ils ont amené l'imprimerie. Jusqu'à maintenant, on écrivait à la main. Ils nous ont amené l'imprimerie, ils nous ont amené la recherche. Les pères lazaristes, les dominicains, les carmes, les jésuites, ils ont amené énormément. Ils ont fait évoluer notre église. Donc on est reconnaissant de tout ce que vous avez pu faire pour notre église. Surtout les lazaristes, Paul Beidjan par exemple, en 1907, il a écrit énormément. Il y en a beaucoup aussi qui ont retravaillé la langue, parce qu'on avait notre langue, mais on n'avait pas de grammaire. On avait certains balablaus, certains grammairiens antiques qui avaient parlé de la langue, mais la langue n'était pas codifiée comme aujourd'hui. Donc, tous ces gens-là, ils nous ont aidés à refaire un peu notre histoire. En 1915, malheureusement, le génocide arrive. Avec les Arméniens, 1,7 million Arméniens, mais il y a eu 500 000 Assyro-Chaldéens, Syriaques, qui ont été massacrés aussi. On n'en parle pas beaucoup. Mais Rétoré en parle, il y a des témoins oculaires du génocide qui en parlent. 1915-1933, des villages entiers ont été massacrés. Énormément de fidèles de nos églises qui se trouvaient dans les montagnes, réfugiés dans les montagnes de Hakai. Moi, mes parents, ils viennent de Hakai. Je viens de Turabdin, la montagne des serviteurs de Dieu, qu'on appelle, où c'est le centre aujourd'hui de l'église syriaque orthodoxe. Je suis né là-bas, mais mes parents viennent encore de plus loin, de Hakai. Ces montagnes-là étaient le centre un peu de protection, des refuges de tous les Assyro-Chaldéens contre les massacres. Mais malheureusement, quand il y a eu rafle des Arméniens, des Assyro-Chaldéens, il y en a beaucoup qui sont passés plutôt du côté de l'Irak et de la Syrie. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes personnes de chez nous qui étaient la même village, même famille, qui se trouve en Turquie et en Irak, en Turquie ou en Syrie. La famille est divisée déjà à ce moment-là. Ça n'a pas arrêté. Vous voyez, depuis qu'on a commencé, depuis presque Chapour 1, Chapour 2, jusqu'à aujourd'hui, les massacres n'ont pas arrêté. C'est pour ça qu'on appelle l'église martyre. Parce qu'on a, les martyrs veut dire témoin. Donc l'Église a témoigné de la foi en Jésus-Christ par tous ses fidèles qu'elle a donnés au Christ. De Daesh à aujourd'hui, tout le Proche-Orient. Donc, nous on est surtout ici. La Turquie, l'Irak, un peu l'Iran, un peu la Syrie. On est dans cette zone-là. Et c'est vraiment, on avait presque au début du XXe siècle, 30% de la population du Proche-Orient était chrétien. Et aujourd'hui, rien que pour la Turquie, par exemple, nous sommes 0,05% de la population. La Syrie était presque 25% de la population. Aujourd'hui, ils sont entre 24-5% de la population. 3-5% de la population. L'Irak, avant la première guerre de Golfe, notre église était 1 400 000 fidèles. Aujourd'hui, ils sont 350 000 fidèles. Oui, et au niveau même de visage, de la multiplicité, de la différence, l'Église et surtout aussi le Proche-Orient change de couleur. C'est l'Irak, par exemple, ethniquement, on avait les chiites, 60%, les sunnites. Les sunnites, 20%, les kurdes, 16%. C'est vraiment. Toute cette ethnicité, cette couleur, aujourd'hui, est en train de devenir noire, c'est-à-dire une seule couleur. Ce que Daesh, l'État, prétendu, parce que j'aime pas dire l'État islamique, parce que l'État islamique c'est reconnaître, leur donner une certaine. D'ailleurs, j'étais un peu fâché contre les politiciens quand ils parlent de l'État islamique. Il n'y a pas d'État islamique. Il y a quelqu'un qui se dit, moi je suis l'État islamique. C'est pas parce que je prétends être le roi des Belges que je suis le roi des Belges. Et la même chose, prétendu État islamique a voulu faire disparaître toute la culture parce que, pour eux, l'histoire de l'humanité commence avec l'islam. Donc tout ce qui est avant, c'est pas bon. Mais tout ce qu'ils utilisent, ça doit être quand même d'avant. Toute la civilisation, puisque quand même en Irak, c'est l'ancienne civilisation sumérienne, acadienne, assyrienne, chaldéenne, thaldéenne et babylonienne. Toute cette civilisation, on a voulu massacrer, on a voulu le faire disparaître. Pourquoi? Parce que ça les dérange qu'une statue de Ashurbanipal ou de Nabucodonosor, c'est comme si en fait on va les taper, ou je ne sais pas. C'est une épuration ethnique qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui. Au niveau des chrétiens, des chaldéens, les assyriens, les syriaques, les arméniens, mais pas seulement, parce qu'il y a toutes les minorités ethniques. Il y a les kurdes, les yézidis, les kakaïs, les wabahis, les Shabaks, Mandéens, Sabéens, Sunnites et Chiites, toute cette diversité est en train de disparaître.
Au profit de
prétendu l'État islamique, au profit de l'islam. Mais pas n'importe quel islam non plus. L'islam radical, l'islam fondamentaliste, l'islam que eux considèrent.
Donc ni sunnites, ni chiites.
Même entre eux. Parce que pour eux, un des premiers qui a été tué à Mossoul, c'était un professeur sunnite d'université de Mossoul, parce qu'il était contre leur manière de présenter l'islam. Et c'est lui qui a été, un des premiers qui a été en tout cas tué, c'était lui, un sunnite. Et ce qui s'est passé avec l'arrivée de Daesh, quand ils ont commencé à entrer, ben ils ont mis à chaque maison chrétienne, le Noun en arabe, qui veut dire le Nazaréen, les Nazaréens, ceux qui suivent le Nazaréen, Nous, ces maisons-là étaient devenues la propriété de prétendu État islamique. Donc ils pouvaient mettre la main dessus et utiliser et prendre tout ce qu'ils voulaient. Et ils ont donné quand même une possibilité aux chrétiens en disant soit vous vous convertissez, pardon, soit vous vous convertissez, soit vous quittez, soit on vous tue, soit vous restez, mais vous payez les taxes de dîner, le djiza. Bon. Les chrétiens ont fui par des centaines, par des milliers. Sur une seule nuit, plus de 120 000 ont quitté. Karakoch, Mossoul et tous les villages autour. C'est une épuration ethnique parce que ça nous fait, nous, dans notre histoire, ça nous fait penser au génocide. Mais il n'y a pas beaucoup de différence entre ça et ça. Et ça, c'était le génocide de 1915. Et ça, c'est aujourd'hui. Donc on a vécu, en fait, on revit l'histoire toujours de la même manière et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas vraiment une volonté politique de vouloir changer les choses, en tout cas chez nous. Les églises, ça on ne compte pas la destruction des églises, des villages rasés complètement. À Batnaya, par exemple, j'avais été il y a 2 ans en Irak, c'est vraiment une ville qui a été rasée complètement. Il n'y a plus rien. Donc il faut tout enlever et reconstruire. On a réussi quand même à reconstruire les différents villages autour de Al-Poch, au nord, vers le nord de Mossoul, où il y a eu des centaines de familles, plus ou moins, je pense, entre 700 et 800 familles sont revenues dans leur maison. Mais on se pose la question, jusqu'à quand? Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus d'espérance. Les gens sont là parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Mais s'ils avaient la possibilité de quitter, ils quitteraient. Et certains le font. C'est-à-dire, ils vendent leur maison, ils vendent leurs biens. À qui? À des musulmans. Et parfois, à des prix dérisoires. Et quand Daesh était à Mossoul, et même un peu avant Daesh, où depuis que les Américains ils ont foutu là-bas, c'est les frères étaient devenus des ennemis. Vous receviez, j'ai entendu des témoignages, par exemple ce témoignage de cette famille où ils ont kidnappé leur petite fille de 7 ans et ils devaient donner, je ne sais pas, une somme astronomique. Ils ont tout fait pour pouvoir ramasser de l'argent, en demandant à l'église, en demandant à la famille qui était à l'étranger, etc. Mais ils ont été en retard d'un jour. Mais ils ont apporté l'argent. Et les autres, ils ont dit, les kidnappeurs, ils ont dit, ok, amenez-nous l'argent et on vous amène votre fille. Ils ont amené l'argent, mais ils ont amené que la tête de la fille, de cette femme. Un autre témoignage, il y a des personnes où leur voisin, il dit, écoute, tu me laisses ta maison, tes clés, et tu pars d'ici. C'est chez moi. Tu pars d'ici. Sinon, c'est à toi de voir. Oui, c'est vraiment, les kidnappings, ça on n'en compte pas. Monseigneur Saad Sirop était venu ici maintenant. Ce week-end, il était avec nous. Il a été kidnappé par Daesh. Il a été torturé par Daesh pendant 28 jours. Le Saint-Père est intervenu. Des grosses têtes aussi ont intervenu. Et je pense qu'il y a eu quand même l'argent aussi qui a été payé ou autre. Jusqu'à sa libération. Mais combien de personnes ont été? Monseigneur Raho, qui est maintenant, on a présenté le dossier de canonisation. Monseigneur Raho, Abouna Rahat, à Rome, j'ai étudié avec lui, un jeune prêtre de 33 ans, à la sortie de la messe. Lui, avec 2 servants de messe, ils ont été mitraillés. Monseigneur Raho, il a été kidnappé, il était déjà malade, l'évêque de Mossoul. Et puis, après des semaines, on a retrouvé son corps enterré. Elle avait tué aussi. Vous voyez ? Donc, les martyrs, on en donne presque tous les jours. La cathédrale syriaque, à Bagdad, où on est entré, on a mitraillé. Une trentaine de personnes ont été massacrées. En fait, quand on n'a plus la valeur de l'être humain, on peut faire tout ce qu'on veut. Comme le patriarche disait dans son livre, Ne nous oubliez pas, il disait, on avait kidnappé le fils d'un musulman en lui disant, tu payes 50 000 dollars et on te rend ton fils. Il avait dit, je vous paye 1000 dollars. Mais on va tuer ton fils. Il n'y a pas de problème, j'en ai d'autres. Vous voyez, si la manière de penser de la valeur de l'être humain est différente, ben c'est sûr que ça change. 1000 dollars, tu veux ou tu veux pas? Destruction des églises, déportation, les yézidis, ils ont eu vraiment, ils ont souffert énormément, les yézidis. Parce que les Yézidis ont souffert beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas monothéistes. Et leurs femmes ont été vendues sur le marché à Mossoul. Et ça, c'était une traque d'âge distribuée pour fixer les prix des femmes. Une femme de 40, 50, 50 ans, c'est 35 euros. 69 euros. Les enfants, les filles de 10 à 20 ans, c'est 104 euros. De 1 à 9 ans, c'est 138 euros. C'est vraiment de l'esclavage. Vous voyez ? Je vais aller un peu plus, parce que sinon... Monseigneur Sacco, il est le cardinal, sa béatitude Sacco, il est le cardinal maintenant, cardinal Marie-Louis Raphaël Sacco, s'est opposé énormément et s'est opposé en même temps aussi à la discrimination des minorités ethniques. Parce que lui, il dit, il faut que l'État reste laïque. Si l'État est religieux, on est foutu. Pourquoi ? Parce que on va tirer toujours d'un côté. Il faut rester laïque. Devant la loi, il faut que nous soyons, absolument tous égaux. Ils avaient sorti une loi, par exemple, si un des parents se convertit à l'islam, peu importe, tous les enfants doivent se convertir à l'islam. Monseigneur Sacco est intervenu et ils ont changé un peu la loi, mais ils font passer quand même les choses comme ils veulent. Aujourd'hui, les chrétiens d'Irak qui sont passés, ou de la Syrie qui sont passés en Turquie, ils sont énormes. Il y a plus de... Mais les chiffres changent. Ce sont les chiffres de l'année passée que j'avais. Irakiens, 50 000 de ceux-là étaient chrétiens, mais quand ils arrivent en Turquie, ils sont dispersés, dispatchés dans toute la Turquie. Donc ils ne sont pas... En Turquie, nous, on a... L'église chaldéenne a un centre à Istanbul. Il y a Monseigneur Ramzi Germo, qui est maintenant évêque, l'archevêque d'Istanbul, Ahmadien, mais il loge à Istanbul. Les chrétiens, ils sont dispatchés. Mais parfois, le problème, c'est qu'ils arrivent dans des villes où l'islam est très fort, comme par exemple à Sivas. Il y a déjà entendu des témoignages disant que moi, je vais retourner en Irak. Je préfère mourir là-bas que finalement mourir ici. Pourquoi ? Parce que l'État, normalement, il doit subvenir aux besoins des réfugiés, n'est-ce pas ? L'Europe a promis 6 milliards à Erdogan pour qu'ils nourrissent. Ils ont déjà donné plus de... Au départ, c'était 3 milliards. Mais ils ont dépassé déjà les 3 milliards. Il attend encore la suite de l'argent. Mais cet argent-là, est-ce que c'est vraiment distribué à tout le monde? Les chrétiens, en tout cas, qui se trouvent à Sivas ou à Kastamonu, dans les différentes villes en Turquie, malheureusement, ne touche pas, c'est elle. Les raisons évoquées par les gens qui arrivent, c'est les persécutions, l'insécurité, les menaces de mort, l'enlèvement, en fait, de ne plus être vraiment en protection. Et surtout, par exemple, beaucoup de lieux au nord de l'Irak ont été aussi saccagés. Pourquoi ? Parce que c'était des épiceries où on vendait de l'alcool. Puisque vous vendez de l'alcool, vous êtes chrétien. Donc, puisque vous êtes chrétien, on saccage vos lieux, vos commerces. Ce qu'on avait demandé, en tout cas aux pays démocratiques, c'est de dire mettez la pression pour que l'État soit un État de droit, un État laïque, non confessionnel. J'aimais beaucoup en fait ce que le pape François disait, chacun a le droit aux 3 T, un travail, un toit, une terre. Et en Orient, on n'a ni un travail, ni un toit, ni une terre. Pourtant, c'est notre terre. Nos ancêtres viennent de là. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Et il y a à la communauté européenne, dans les politiques, il y a toujours un langage politiquement correct. On essaye de toujours marcher sur les œufs. Il n'y a aucun qui est capable de dire basta, ça suffit maintenant. Il n'y a personne.
C'est chrétien.
Il y a ça, et surtout, c'est les intérêts économiques qui comptent. Donc, davantage. J'avais fait cette deuxième partie de l'exposé au Parlement européen, mais bon, personne n'a rien entendu. Vous voyez, on a cherché à créer l'Irak avec Daesh, soit noir, soit blanc. En tout cas, pas de couleur. Pourtant, la richesse de l'Orient, c'est sa diversité. S'il n'y a plus de chrétiens au Proche-Orient, le Proche-Orient va devenir l'enfer. C'est les chrétiens, par leur différence, qu'ils amènent l'équilibre à l'intérieur, qu'ils amènent la réflexion à l'intérieur, qu'ils ramènent la cohabitation à l'intérieur. C'est la présence des chrétiens au Proche-Orient est capitale. C'est pour ça que le Saint-Père appuie aussi pour que les chrétiens ne quittent pas. Le patriarche, ils essaient par tous les moyens de garder les gens, mais ne peut pas venir contre la conscience des personnes. On ne peut pas dire, moi je suis ici, je suis bien, et vous restez là-bas, je vais vous aider là-bas. Oui d'accord, mais c'est pas, trouve-moi alors une sécurité, trouve-moi un travail, trouve-moi un toit, je resterai. Ils sont pas, il y en a beaucoup hein, qui étaient très riches là-bas, ils avaient des maisons, ils avaient tout. En général, ce sont des gens cultivés aussi, donc universitaires. Mais quand ils quittent tout ici, ils sont médecins là-bas, ils viennent ici, leur diplôme n'est pas reconnu. Hein. Ils sont ingénieurs là-bas et ici, ils sont plus rien. Ils sont pharmaciens, ils ont leur pharmacie ici, là-bas. Ils viennent ici, bah, ils doivent se mettre sur les bancs pour réétudier, pour pouvoir. Vous voyez, plutôt que d'avoir un Irak multicouleur, avec les chiites, les sunnites, les kurdes, les chaldéens, les assyriens, les syriaques, les arméniens, les yézidis, etc., on a préféré avoir l'Irak noir. Une seule couleur. Uniforme. Mais ça, c'est vraiment la. Moi, ça me fait penser toujours à Babel, hein, la tour de Babel. La tour de Babel, c'était ça. Hein. L'idée des hommes, c'était quoi? C'est un seul discours, un seul nom, une seule langue, une seule manière de penser. En fait, faire tout uniforme. Et le Seigneur a dit, c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'unité doit venir de la différence. C'est le défi de notre humanité, c'est de faire notre unité tous ensemble dans notre différence. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que vous êtes différent de moi, je suis différent de vous. Mais est-ce qu'on peut construire ensemble? C'est là le défi. Au niveau de la liturgie, je ne vais pas trop m'attarder sur l'introduction ici. La liturgie, c'est pas simplement donc quelques rites que nous faisons à la liturgie. La liturgie, c'est vraiment l'expression de toute la foi. En Orient, pour nous, la liturgie, c'est toute la vie. On n'a pas beaucoup de... On n'a pas de saint Thomas chez nous.
Thomas d'Aquin.
Thomas d'Aquin. C'est, on n'a pas des tractatus, comment on appelle ça, Theologicus ou je ne sais pas quoi. On n'a pas toutes ces théories. On est dans la vie. Et la vie, c'est la liturgie. En fait, dans la liturgie, on trouve le cœur de toute notre foi. Toute notre théologie est présente dedans. Je vais caricaturer un petit peu, mais en fait, on dit qu'il y a la liturgie occidentale, bon, il y a quand même plus ou moins 50 ans, hein. La liturgie occidentale, c'est plutôt dolorosa, un peu plus portée sur vendredi saint. On était un peu trop porté sur vendredi. Et puis, la liturgie byzantine, on disait, c'est trop pompeux, c'est trop la résurrection, c'est plutôt dimanche. Et la liturgie plutôt orientale de chez nous, c'est plutôt vendredi saint. Samedi saint, c'est samedi de lumière. On a les deux, mais on a la foi dans cette clarté qui commence à se réveiller. Et dans notre liturgie, on était très sobre. On n'est pas comme la liturgie byzantine, par exemple. Si vous allez à l'église byzantine, vous allez voir, c'est très pompeux. C'est vraiment des pontifes, parce que c'est impérial comme liturgie. Chez nous, c'est très sobre, très simple. On répète beaucoup. D'ailleurs, nous, on n'est pas très iconographe, on n'a pas beaucoup d'icônes, parce qu'on a été influencé aussi un peu par l'islam, pas l'image. Les églises, chez nous, étaient beaucoup plus simples. Mais la foi fondamentale de la liturgie, ce n'est pas de dire ce que l'on fait, mais vivre ce que l'on dit. C'est la liturgie, c'est la vie chrétienne, dans sa totalité. Toute notre liturgie, c'est toute notre théologie et notre spiritualité s'y trouve dedans. Saint Irénée disait « Notre doctrine est en accord avec l'Eucharistie et l'Eucharistie la confirme. » Donc, ça montre que finalement, entre la liturgie et le dogme de la foi, il y a une unité. La liturgie, ce n'est pas quelque chose à côté qu'on fait dimanche, et puis le reste du temps, on est en train de réfléchir sur la foi. Vous voyez ? C'est celui qui est dans la liturgie a déjà réfléchi la foi. Je vais aller plus vite pour essayer de montrer un peu notre liturgie, la construction de nos églises au Proche-Orient a été comment. Donc, il y a le temple de Salomon, et puis a été reconstruit, détruit et reconstruit, et détruit en 70. Ça, c'était le temple. Et puis le temple, on est passé à la synagogue. Mais à la synagogue, il y a quelque chose d'intéressant, parce que nos églises orientales ont calqué un peu le même système, en faisant synagogue et temple en même temps. On les a unis. Dans les synagogues, on a le bimma, la tribune, si vous voulez, où on fait les lectures. Et ici, puisqu'il n'y avait plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, donc on a la Shekina, ou la présence de Dieu avec les rouleaux de Torah. Mais l'Église, aujourd'hui, va faire utiliser les deux pour mieux vivre. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé d'abord leur Eucharistie à l'intérieur des maisons, hein. Je passe à l'intérieur des maisons pour arriver à l'église chaldéenne aujourd'hui. Malheureusement, nos églises ne correspondent pas aujourd'hui exactement à ça, mais ça devrait être comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le bema, ce qui était dans la synagogue. Et ici, nous avons le lieu de la sacrifice, c'est-à-dire le temple, le Saint des Saints. Le Saint des Saints était coupé par un rideau ça va venir
brancher, rebrancher.
Moi, j'ai l'impression que... Je vais arrêter maintenant. Donc, ici, vous voyez, ici, cette épopée, nous avons Bédiacone et le baptistère, et ici, on a un rideau qui coupait le Saint des Saints de la nef où l'assemblée se réunit, avec au milieu, on avait le bema où on fait les lectures. En fait, c'est très symbolique. L'architecture est très importante dans une église. Maintenant, on fait un peu à notre sauce, mais bon, ça dépend un peu des églises. Mais le Saint des Saints, c'est Jérusalem céleste. Le rideau, c'est ce qui nous coupe de Jérusalem céleste avec la Jérusalem terrestre qui est l'Assemblée. Le Christ, il descend, il est incarné. On ouvre le rideau au moment de la liturgie de la parole. Mais la liturgie, c'est latinisé, malheureusement. On ouvre les rideaux, on descend, il annonce à Bema, il annonce la bonne nouvelle. Et puis, il nous prend avec lui et il nous amène à la porte de Jérusalem, le lieu où on va communier. Vous voyez ici, le narthex, c'est pour les catéchumens, les pénitents, le nef, c'est pour les laïcs. Plus on monte, on s'approche vers le sacré. Castroma, c'est la ligne qui est réservée pour les diacres. Ils sont déjà presque dans le sanctuaire du ciel. Le sanctuaire, c'est le prêtre et les célébrants. Personne ne monte normalement au cœur, dans le cœur. Surtout les femmes, par exemple, chez nous, ne montent pas dans le cœur. Dans l'église arménienne, c'est même les prêtres, ils doivent se déchausser pour monter dans le cœur. Pour montrer la sacralité de la chose. On a banalisé tellement que finalement, parfois, on se demande est-ce qu'on n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain ? Le sanctuaire, c'est du Jérusalem céleste. Le castroma, juste le petit chemin, les trois escaliers qui montent vers le cœur, c'est le paradis. Le nef, c'est la terre, le monde. Le bema, c'est le lieu de Jérusalem où le Christ a annoncé sa bonne nouvelle. Et Bet-Sekakon, c'est le chemin étroit qui nous conduit, c'est le petit chemin qui nous conduit pour la communion avec le Christ. Vous voyez, donc, en fait, l'architecture de l'Église nous apprend déjà énormément sur le mystère du salut. La liturgie, elle est divisée en deux parties, mais là je ne vais pas en parler maintenant, parce que notre prière eucharistique remonte à, bien sûr, à des racines très juives et judéo-chrétiennes, donc Brichat Kiddush, Brichat Hamazon. La liturgie aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, elle a la même structure. La première partie, liturgie de la parole, en fait on est trois parties. Première partie, pré-sanctifiée, on pré-sanctifie le pain et le vin, et puis liturgie de la parole, et puis liturgie eucharistique. On a trois anaphores dans la liturgie. Maladaï Marmali qui est du deuxième siècle là encore utilisé, avec l'intégration des paroles de la consécration. Et puis on a deux autres de Théodore de Mopsuest et de Nestorius, même s'il a été condamné, mais il reste quand même chez nous. On appelle rasé, mystère, ou l'ordre des mystères pour nommer la liturgie. La rentrée. Une chose est différente aussi dans notre liturgie, donc la liturgie de la parole, ça c'est la même chose. Mais au début, quand on commence la prière eucharistique, la paix du Christ est donnée à ce moment-là. Donc, on récite le credo tous ensemble, et puis un diacre vient à l'autel, il reçoit du prêtre qui a la main posée sur les espèces, il donne la paix du Christ, et lui, il transmet. Et on ne donne pas la paix du Christ sans qu'on n'a pas reçu la paix du Christ. C'est pas salut, ça va. C'est la paix du Christ que je reçois et je te transmets. C'est pas notre paix qu'on donne les uns aux autres. Ça, c'est spécifique chez nous. Et puis, ce qui est spécifique aussi, c'est la signation et la fraction. Ça n'existait pas. Je crois que ça existait dans la liturgie latine à une époque peut-être, mais ça n'existait pas. Le corps du Christ qui signe le sang du Christ et le sang du Christ qui signe le corps du Christ. Et puis il y a la communion et la bénédiction. Et au niveau juste des églises orientales, nous avons notre, comme je disais, notre propre spiritualité, notre vie mystique. Ben, nous avons Jean le Solitaire, Narsai, on a Ephrem bien sûr, qui est reconnu et qui a été d'ailleurs, il est docteur de l'Église, par Benoît XV, je pense pas, par le pape Benoît XV. Nous avons Sardona d'Audicho, Isaac Ninois et Isaac de Ninive, c'est un moine qui a été reconnu, accepté et toujours travaillé, même dans l'Église russe, orthodoxe. Vous voyez, lui, c'est un historien. Il est un historien, mais il est accepté par toutes les églises. Yohanan Deliata, il est comparé, Yohanan Deliata, à Saint Jean de la Croix, dans l'Église occidentale. Et je termine peut-être avec celui-ci simplement. Un discours de Ishaq de Ninive, il dit: la foi est la porte des mystères. Ce que sont les yeux du corps pour les choses sensibles, la foi l'est pour les yeux de l'intellect, puisqu'ils contemplent les trésors cachés. Selon les pères, nous avons deux yeux de l'âme, tout comme deux yeux du corps. Mais les deux ne sont pas utilisés pour le même type de vision. D'un œil, nous contemplons les secrets de la gloire de Dieu cachés dans des objets naturels, c'est-à-dire son pouvoir, sa sagesse, son dessein pour nous, que nous contemplons comme la conséquence de ses conseils. Avec le même œil, nous contemplons les ordres, les êtres spirituels, nos compagnons de service. Et avec l'autre œil, nous contemplons la gloire de sa nature sainte, la sainteté même de Dieu. Maintenant que notre Seigneur veut que vous entriez dans les mystères spirituels, il a ouvert la mer de la foi dans nos esprits. C'est la foi, la porte des mystères. Voilà. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on dit merci?
Oui, Taudi. Hein? Taudi.
Taudi. Attendez.
Dépasser un peu l'heure, mais bon. Il y a trop de choses à dire.
Merci, Moussa.
Avec plaisir. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Je crois que j'ai mis une petite bibliographie, mais vous avez énormément de choses. Oui, c'est mieux comme ça. C'est le mystère chaldéen qui a été fait par Monseigneur Ali Choran, un directeur de l'Église chaldéenne de Paris. C'est vraiment assez complet. Il est en 1982, Paris. C'est très complet sur l'histoire, la liturgie, la traduction. D'ailleurs, il avait fait la traduction des trois anaphores que j'ai citées tout à l'heure. Donc, il y a tout dedans. Mais cette liturgie aujourd'hui a été revue par le patriarche actuel. Donc, on a supprimé quand même certaines choses. Parce que avant, on ouvrait la liturgie par le Notre Père. Et on clôturait par le Notre Père. Et au milieu, on avait le Notre Père. Donc, dans la liturgie, on avait trois fois le Notre Père. Et il pense que c'est un peu trop répété. Mais l'église assyrienne, par exemple, qui a la même liturgie que nous, continue toujours.